Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose une première lecture dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, ou qu'il ne pouvait le vaincre, dans d'autres traductions, d'autres versions, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Ça, c'est le début de notre Bible, Genèse. On va regarder dans le livre de l'Apocalypse, si vous voulez. On va faire un grand saut dans l'histoire. L'histoire de Dieu, l'histoire des hommes. Livre de la Genèse, chapitre 6. Apocalypse, excusez-moi. Je vois que vous êtes présents. Vous réagissez bien. Alors, non, je ne vais quand même pas vous dire le contraire de ce que je vous ai dit il y a un instant. Alors, Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Un très beau texte aussi. 6:2. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. De la Genèse à l'Apocalypse, du début jusqu'à la fin de notre Bible, il y a un mot d'ordre, peut-être une devise pour nous en tant que chrétiens, c'est vaincre, victoire, vainqueur. Avez-vous remarqué dans nos cantiques que ce sont des mots qui reviennent très souvent ? C'est vrai, on les chante, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'ils témoignent hautement de ce que Jésus a accompli pour l'humanité, pour les hommes, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vrai que ce sont des mots qui reviennent très souvent, ils nous plaisent. Je crois qu'ils sont assez plaisants. Nous les entendons très souvent proclamés, déclamés d'une manière ou d'une autre dans nos églises. Mais nous allons voir ce matin que le dire, c'est une chose, le vivre, le réaliser en est une autre. On sait que la Bible est le livre des victoires, c'est le livre des vainqueurs. Et on le saisit par la foi, naturellement. Je cite simplement quelques passages, je ne vais pas en citer très nombreux, mais pour nous remémoriser un petit peu la situation qui est celle d'abord de Dieu, de celle de Christ, et puis nous qui marchons à la suite de Christ. Dans Romains, par exemple, au chapitre 8 et au verset 37, il nous est dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dans son amour que nous trouvons la victoire. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 14, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ. » Ça revient au même, hein. Triomphe, c'est une victoire colossale, un triomphe, quand on parle de triomphe. Et puis, dans 1 Corinthiens, en revenant un petit peu en arrière, au chapitre 15 et au verset 57, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Je m'arrêterai là parce que si vous voulez prendre une concordance, vous pourrez regarder, vous allez en trouver avec tout ce que cela peut comporter et dans toutes sortes de situations. On peut dire alors en cela, puisque nous avons un livre extraordinaire et formidable, que le croyant est un vainqueur. Je dirais qu'il est potentiellement vainqueur, parce que peut-être que nous sommes parfois en deçà, finalement, de ce que Dieu a projeté pour chacun d'entre nous. Dans le récit de Jacob que nous avons lu en introduction, la proclamation de la victoire est précédée d'une ardente lutte. Vous avez remarqué avec moi, il nous a dit qu'il s'est d'abord retrouvé seul. Et ensuite, il a dû lutter contre un personnage inconnu. Une nuit entière. Et ça a été quelque chose, certainement, de... En tous les cas, ça a été crucial pour sa vie, dans la vie de Jacob. Et cette lutte est l'image, justement, de quelque chose. C'est que le mot victoire s'associe à l'idée de combat. Oui. Dans notre vocabulaire de tous les jours, quand nous parlons de victoire, il y a nécessairement un combat auparavant. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Le mot, ça n'aurait pas de un engagement en tous les cas. Quelque chose qui où il va y avoir un déploiement, une énergie qui va être avancée pour atteindre un but. Une victoire, c'est quelque chose, si on peut résumer de cette manière, c'est quelque chose qui se remporte à prix d'effort. Dans la vie courante, à prix d'efforts, de résistance, de souffrance, voire, et très souvent, de sacrifice. Je ne colle pas à l'actualité, mais aujourd'hui, on va fêter le 60e anniversaire de la capitulation des nazis. Eh bien, quand on prend en considération la souffrance, la peine des peuples, tout ce qu'il a pu y avoir d'horrible, de larmes, de sang, de feu, de séparation. On peut se dire que, oui, quand il y a des millions et des millions d'hommes qui ont donné leur vie pour la liberté, alors à ce moment-là, on peut parler de victoire. Et si dans la mémoire collective, on veut marquer quelquefois certaines périodes de l'année, comme le 11 novembre et autre chose, le 14 juillet ou tout ce que vous voudrez, puis dans tous les pays, c'est comme ça, il n'y a pas un pays qui fait exception. Hein. C'est parce que justement, il y a quelque chose à retenir. Il y a un souvenir à garder. Il faut qu'on se mémorise ou se garde en mémoire eh bien, certaines luttes de nos aînés, de nos pères, de ceux qui nous ont précédés, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes en raison, parce qu'il y a eu une résistance, parce qu'il y a eu quelque chose qui a bien marqué finalement, eh bien là, une victoire. Par comparaison, et peut-être pour mieux saisir le caractère d'un vainqueur, il peut être dans deux ou trois petits mots, peut-être prendre la mesure de ce qu'est un vaincu. Ça nous aidera, j'aime bien moi faire des contrastes, parce que ça nous permet d'avoir une idée bien juste des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un vaincu? Eh bien, ça a mal commencé dans l'histoire de l'homme. Et ça a commencé par une défaite. On s'aperçoit que l'homme a été créé et placé en Éden pour être un vainqueur. Ça, c'est le chapitre 2. De ce premier livre de la Bible, Dieu lui avait donné le couronnement sur toute la création. Un roi, un vainqueur, supérieur à tout ce qui avait été fait. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et Dieu l'avait placé justement en vainqueur. Et la première défaite eut lieu le jour où Adam et Ève ont mis en doute qu'ils étaient vainqueurs. C'est à partir du moment où ils ont entendu cette parole perfide. Mais Dieu a-t-il réellement dit que vous étiez des vainqueurs? Enfin, c'est pas marqué, hein. C'est moi qui l'ajoute, je paraphrase. Mais la mise en doute, et ça c'est terrible, de commencer à douter, et à ce moment-là, eh bien, nos premiers parents, passez-moi l'expression, ont commencé à dégringoler. Et au lieu de prendre tout simplement la victoire sur le mal et sur Satan, parce qu'ils avaient les moyens, l'homme est tombé sous la domination justement de cet ennemi, perfide, insidieux, qui avait jeté tout simplement le doute, puis le scepticisme, l'incrédulité au fond de son cœur, en l'ébranlant dans la victoire que Dieu lui avait donnée, victoire de la vie. Et quand on parle de vie, dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, c'est autre chose que la vie que nous avons, nous, ici sur Terre. Parce que, comme nous allons le voir, nous portons toutes les conséquences de ce repli de l'homme dans cette position, dans ce positionnement de victoire. Depuis, l'humanité entière a été chargée de chaînes, et de la chaîne des vaincus. Vous savez, on a tous ces idées de l'esclavage, ou toutes ces images, ces illustrations de ceux qui partent en déportation, où nous voyons des prisonniers, des hommes qui, là, eh bien, traînent leurs chaînes. C'est une image affreuse, c'est une image redoutable. C'est vrai, c'est quelque chose de terrible et de pitoyable. Et nous pouvons parler d'une humanité qui traîne ses chaînes, dont la condition, eh bien, c'est la tristesse, c'est le désespoir, c'est la captivité, c'est la servitude et c'est la mort. Voilà la marque de cette déchéance dans la victoire que Dieu avait donnée à l'humanité. Si le monde est un monde dominé et vaincu, c'est-à-dire par l'ennemi de Dieu, par notre ennemi, par l'homme, domination de l'homme par l'homme, nous en entendons parler suffisamment. En tous les cas, une chose, et c'est là nous avons besoin, nous, de nous redresser, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est un peuple de vainqueurs. Et ça, il faut que nous en soyons persuadés, parce qu'autrement, nous ne ferons jamais rien. Nous ne pourrons jamais avoir de perspective. Nous ne pourrons jamais nous réjouir. Nous ne pourrons que finalement tourner toujours dans le négatif. Et on peut parler de servitude quelquefois dans le cœur des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais la question qui se pose devant ces affirmations, parce que ce sont assurément des affirmations que nous connaissons tous, mais sommes-nous toujours vainqueurs en tout et partout ? La question, elle est là. Il y a des choses sur lesquelles nous réussissons bien. On a des aptitudes. On a le sens d'eux. Et puis, il y a la grâce de Dieu qui est derrière. Quand nous ne l'oublions pas, que c'est encore Dieu qui fait toutes choses. Mais, néanmoins, nous ne devrions jamais oublier que nous sommes un peuple de vainqueurs, mais reste à savoir, il y a des situations dans notre vie qui sont quelquefois dans l'ombre, où Dieu voudrait nous donner des victoires. Des situations qui touchent à notre être physique, à notre être moral, psychologique et à notre être spirituel. Ce qui fait la valeur des victoires et la gloire des vainqueurs, c'est de rester victorieux. Je vais vous citer un fait historique parce qu'on l'a tous appris à l'école et puis c'est fait partie de notre histoire contemporaine. On avait un général au début du XXe siècle qui s'appelait le maréchal Pétain. Il a été vainqueur en 1918 et puis il a été vaincu en 1940 avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Peut-être que à cette époque la France se glorifiait et se reposait un petit peu trop sur ses lauriers. Nous sommes des vainqueurs. Ah oui, mais ce qui est important, c'est de rester vainqueur. C'est pas de faire comme cet homme, d'avoir et de triompher un temps, et puis après d'être pitoyablement battu. Parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Et notre appel, celui de la Bible, est précisément de marcher de victoire en victoire et de ne pas nous contenter d'une victoire ou de quelques victoires, ou les victoires du début de notre conversion, de notre vie chrétienne, et puis de dire à la fin, eh bien, on baisse les bras parce que finalement, eh bien, ça sert à quoi ? Non, c'est d'aller. Et de dire peut-être avec l'apôtre Paul, parce que c'était un homme qui a su enseigner sur la victoire de Dieu, la victoire spirituelle, il dira ces mots, oubliant ce qui est en arrière. Et peut-être qu'une des raisons de nos défaites, c'est que nous regardons plus souvent en arrière qu'en avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, et il dit, je cours. Il y a un effort, il y a une résistance. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est la victoire suprême. Les plus désastreuses défaites ont pour origine précisément de regarder derrière nous. Et vous savez que quand on regarde longuement derrière nous, en plus quand vous pressez le pas, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer un obstacle. Et c'est pas toujours très agréable, hein, mais il faut regarder devant soi et non faire comme la femme de Lot, vous savez qui a regardé derrière parce que son cœur était attaché à toutes ses richesses, à ses amitiés, à ses affinités, à ses goûts dans cette ville qui était en flammes. Et là, à ce moment-là, elle s'est retrouvée tout simplement transformée en statue de sel. Voilà. Dieu dit à Jacob, dans notre texte que nous avons lu, « Tu as été vainqueur. » Non seulement tu es vainqueur, tu as été vainqueur, et on pourrait peut-être ajouter, mais demeure vainqueur. Et nous voyons que Dieu répète aussi avec une certaine insistance à 7 reprises dans l'Apocalypse. Et c'est là où nous allons fonder notre méditation ce matin. Avez-vous remarqué qu'il y a une petite expression qui revient au début du livre de l'Apocalypse, à la fin de chaque lettre dédiée aux églises, à celui qui vaincra. Alors là, c'est pas tu as été vainqueur, mais à celui qui vaincra. C'est-à-dire qu'il y a une projection, une stimulation, un encouragement dans l'avenir, l'avenir proche et l'avenir lointain, à celui qui vaincra. Les victoires sont donc, puisque c'est écrit au futur, sont tout simplement, eh bien, devant nous. Elles sont remportées et il faut que nous nous les approprions, que nous rentrions dans ces victoires. C'est une exhortation à caractère permanent qui s'applique tant à l'Église qu'aux croyants que nous sommes personnellement. Pour être vainqueur, il faut être déterminé à vaincre, et c'est pourquoi nous avons choisi ce texte de Apocalypse 6, verset 2. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est ce qui nous est présenté de la personne de Christ montée sur un cheval blanc. Et il part, non pas pour faire une tentative, non pas pour essayer quelque chose, mais il part en vainqueur et pour vaincre. Et je crois que c'est aussi une expression qui doit stimuler notre courage et notre détermination à aller jusqu'au bout. Souvenons-nous quelques instants de ces espions démoralisés que Moïse envoie dans le pays de Canaan. Ils y vont. Ils reviennent d'abord avec un timide enthousiasme. C'est bien. C'est bon. Ça a l'air d'être pas trop mal. Mais après, le ton change. Ils reviennent et ça devient une constante, un état d'esprit négatif. Nous avons vu des géants. Et nous étions comme des sauterelles. Eh ben oui. Mais avec le Seigneur, il est capable de se mettre du côté des sauterelles pour faire tomber les géants. Parce qu'ils avaient raison de dire, peut-être nous sommes comme des sauterelles, c'est vrai que nous ressemblons à toutes ces petites choses qui existent comme ça, et on n'a pas tellement finalement là de quoi les moyens de se mesurer avec des Goliaths. Mais justement, c'est ça précisément le défi de Dieu. Et la victoire, elle se prend justement sur ces bases-là. Nous voyons des géants et nous sommes des sauterelles. Alors ils avaient peut-être raison de dire ça, mais ils n'auraient pas dû insister pour le dire. Parce qu'à partir du moment où ils se sont considérés comme des sauterelles et qu'ils ont oublié que Dieu était avec eux, eh ben ils ont fait 38 ans de supplément de visite du désert. C'est ce que ça leur a valu. J'aimerais mettre devant nous maintenant cette application pratique. Moi, j'aime bien les choses pratiques. Hein. C'est pas la peine de faire de la théorie et de la théologie, mais des choses pratiques dans notre vie. Cette application pratique où nous sommes exhortés à prendre, à remporter, à rentrer, à nous approprier les victoires que Christ nous a données. Alors, à celui qui vaincra, répétez cette fois dans les premiers livres, chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. La première victoire qui nous est proposé, c'est une victoire sur nos fatigues, nous en avons parlé mercredi, sur la lassitude ou les lassitudes de l'existence, sur l'usure. Et c'est l'église d'Éphèse qui est proposée, où l'esprit de Christ est adressé, s'adresse à cette église, cette communauté de chrétiens de l'église primitive, qui finalement avait besoin de prendre conscience qu'ils étaient peu à peu en train de perdre la victoire et le dynamisme, le tonique de la foi, parce que la fatigue, la lassitude et l'usure avaient commencé à faire son œuvre. Et Dieu dit, à ce moment-là, « Je connais tes œuvres, assurément une église qui avait travaillé, beaucoup travaillé. Je connais ton travail, Dieu n'oublie pas le travail de ceux qui le servent. Et ta persévérance, caractéristique d'un zèle pour l'évangile, son service fidèle et sa patience, telle était, nous pouvons dire, l'image qui nous est laissée d'Éphèse. Mais il y a une lacune. Et cette lacune, Dieu va la souligner tout simplement. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, malgré ton travail, malgré ton labeur, malgré ta persévérance, malgré tout ce que tu as fait. Et c'est vrai qu'il y a des églises qui sont véritablement des églises qui s'activent. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'elles sont là dans cette activité, si elles oublient autre chose. Et cette parole est adressée aux chrétien de l'église d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, Dieu voulait, avec un certain regard de tristesse sur ce peuple qu'il aime à Éphèse, de dire, mais mes amis, mes enfants, vous vous êtes lassés. Vous vous êtes lassés. Vous vous êtes refroidis. Tu as abandonné ton premier amour. L'abandon. On n'en veut plus. On ne veut plus faire d'efforts. On est trop fatigué. on se dit à quoi bon. On le sait les uns et les autres que les années tendent à émousser et à user notre ferveur. Ouais. On le sait. Vous vous souvenez, lorsque nous nous sommes convertis les uns et les autres, on était tout feu, tout flamme. On devrait l'être encore. Quelle spontanéité pour venir dans les réunions, pour servir le Seigneur, pour faire des prospections, toutes sortes de choses. Puis au bout d'un certain temps, il y a eu un essoufflement, hein? Le feu sacré s'est éteint chez certains. On aurait besoin tout à nouveau de voir nos églises enflammées, mais pas d'un feu étranger où il y a toutes sortes de piétinements, toutes sortes de choses, parce que ça, bon, hein, il y a des stades. Mais vraiment, dans l'authenticité d'une approche du Seigneur de tout cœur, avec joie, avec une ferveur, et de chanter sous l'onction du Saint-Esprit, de prier sous l'onction du Saint-Esprit, un feu sacré. Le danger qui est stigmatisé dans cette église, c'est tout simplement, eh bien, le vieillissement spirituel. Nous vieillissons les uns et les autres. Voyez les cheveux blancs qui apparaissent. Pour les messieurs, quelquefois, il n'y a plus de cheveux sur la tête. Hein? Pour les dames, c'est autre chose. Hein? On n'en parle pas. Mais toujours est-il que le vieillissement nous atteint d'une manière ou d'une autre. Eh oui, quand on commence à vous appeler grand-père, grand-mère, on commence à bien faire. Hein? Et ça arrive très vite. Hein? On s'en aperçoit même pas. Alors, le vieillissement spirituel, le relâchement, le déclin, on finit par être blasé. Blasé de quoi? Parce qu'il est question de quoi? Blasé d'aimer. Tu as abandonné ton premier amour. Blasé d'aimer. Et ça, c'est vrai pour le Seigneur. Mais c'est vrai pour la communion fraternelle. Si on veut plus faire d'efforts pour aimer nos frères et nos sœurs, ils ont certainement des défauts. Mais n'oublions pas qu'ils ont des qualités aussi. Parce que si on veut voir que les défauts, on verra que les défauts. Et quelquefois, dans le couple, c'est pareil. Hein, quand on se marie, on est souvent très jeune, on est très beau. Et puis quand on vieillit, c'est pas qu'on est moins beau, hein, mais c'est parce que le temps a passé. Et puis, oui, mais celle ou celui qu'on a choisi, c'est toujours le même. Hein. C'est vrai. Et alors, on ne doit pas cesser d'aimer. On se connaît si bien après 30 ans ou 40 ans. C'est vrai qu'on se connaît bien, mais bien se connaître, ça se fait justement pour resserrer les liens et puis nous aimer encore davantage. Et non pas comme nous le voyons dans le monde aujourd'hui, où on dit « maintenant je ne peux plus te supporter, alors on se sépare ». C'est triste. Hein? Tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné l'amour. Vous savez, pour aimer, il faut le vouloir. Hein? Parce qu'on ne perd pas, on l'abandonne, on laisse tomber, tout simplement. Alors la victoire consiste à vaincre l'habitude. Hein? Ah oui. À vaincre la lassitude, la routine qui rend le christianisme formalisme. C'est comme ça que on devient des statues de sel dans les églises. Ben oui, des statues, on les a pas sur les murs, mais quelquefois, excusez-moi, hein, vous m'en voulez pas. Et je parle pas seulement pour l'église de Saint-Nazaire, je parle pas pour l'église de Saint-Nazaire d'abord. Je retire parce qu'autrement je vais me faire licencier. Eh oui, christianisme formalisme où tout est codé, tout est programmé, tout est figé, il faut pas que ça dépasse, c'est comme ça. Mais c'est pas la vie, frères et sœurs. La vie, c'est le bouillonnement. C'est la ferveur, c'est l'ardeur. C'est ça ce que nous avons besoin. Parce que la vieillesse, c'est la mort, on le sait tous. Mais, comme Paul le dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume, dans les principes du royaume de Dieu. C'est que si mon homme extérieur se détruit, mon âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Parce que ma source est en Jésus, mes racines sont en lui, je puise en lui. Le ressourcement de la vie. Victoire sur le temps. Nécessité d'un renouvellement permanent pour rester jeune. Et la jeunesse, c'est la joie, c'est l'entrain, c'est le dynamisme, c'est la ferveur. Seigneur, bénis tes églises, bénis ton peuple et donne-nous, s'il te plaît, le souffle du feu sacré, tout à nouveau, par le Saint-Esprit, parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. À celui qui vaincra et qui saura conserver la fraîcheur du premier amour. Le texte dans la Bible nous dit « Je donnerai à manger de l'arbre de vie ». L'arbre de vie qui est le symbole de la plénitude de vie et de renouvellement intarissable, c'est ce que ce sera dans le ciel. Mais déjà sur la terre, le Seigneur veut faire déjà descendre ses fruits bénis célestes. Alors, comme si Jésus nous disait encore ce matin, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. Il y a beaucoup de lassitude parfois dans le peuple de Dieu parce qu'il y a des fatigues de la vie, fatigues de tellement de choses. Et le Seigneur se propose seulement non pas d'écouter cette parole ce matin, mais d'aller plus loin que de l'écouter et inviter peut-être un frère, une sœur, quelques-uns, certainement peut-être tous, finalement, à nous ressourcer et de trouver cette fraîcheur, parce que c'est ça la vie avec le Seigneur. Une autre victoire, c'est l'exemple de l'église de Smyrne. Smyrne. La caractéristique, c'est l'affliction. Cette église est une église où on souffre beaucoup. C'est la pauvreté matérielle. Et puis, qui plus est, c'est une église qui est persécutée. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Caractéristique de l'église primitive, des églises, certaines églises primitives, c'était ça. Smyrne, c'était comme ça. Et Dieu va venir vers cette église qui souffre ses douleurs. Et l'Esprit va dire à cette église, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et il ajoute ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous avez remarqué que dans cette lettre adressée à Smyrne, il n'y a aucun reproche. Pas comme à Éphèse. Dieu fait un compliment, je connais ton travail, mais ce que j'ai contre toi. Mais là, il n'y a rien du tout. La vie chrétienne consacrée n'est pas exempte de douleur et de peine, et ça nous le savons, frères et sœurs. La victoire qu'il nous faut remporter consiste à triompher de la crainte de souffrir et de l'effroi qu'inspire la mort. Et peut-être, dois-je le dire, qu'il y a parfois des enfants de Dieu qui n'ont pas encore résolu le problème de la mort. Ils sont encore dans la crainte de la mort. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais quelquefois, il m'est arrivé d'entendre des propos de frères et sœurs en disant « Mais j'ai peur de mourir !» Bien sûr que nous avons peur de mourir d'une manière générale, ça c'est certain. Mais je veux dire que il devrait y avoir, notre foi doit pouvoir transcender, surpasser cette crainte qui est la crainte de souffrir pour mourir. Mais quelque part, notre foi doit être plus forte en disant mais je vais partir, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, le plus tard possible. Mais en tous les cas, je sais que mon espérance est en Jésus et je verrai Jésus, je le contemplerai de mes yeux. Je le glorifierai, je le verrai face à face. Je vais dans ses demeures éternelles, ses demeures bénies. Donc, nous ne sommes pas comme les hommes qui ne croient pas en Dieu. Nous avons une espérance forte et vivante. Et le problème, peut-être pour Smyrne, qui était une église qui avait subi le pilonnage, le matraquage, toutes sortes de souffrances, qui s'était abattue, eh bien, c'était justement peut-être de garder au fond de son cœur un certain effroi de l'au-delà, de la mort. Et je crois que notre force à chacun est dans la glorieuse espérance des cieux. Et Paul l'écrira quand il dira ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée, qui nous sera réservée, être prêt à donner joyeusement notre vie, comme les chrétiens de l'Église primitive, comme à travers l'histoire du christianisme dans les siècles qui nous ont précédés, où être chrétien, c'était de prendre de grands risques. » Si nous connaissons et nous étudions l'histoire de la Réforme, l'histoire des Huguenots, l'histoire de telle ou telle communauté chrétienne dans l'histoire du monde, nous verrons que ces hommes avaient mis Jésus au-dessus de toute autre chose. Être prêt à donner notre vie. Souvenez-vous de Paul et Silas qui chantaient dans leur prison. Souvenez-nous de Pierre qui dormait tranquillement avant, à la veille de son exécution. Et que dire de Paul ? Jésus nous encourage au passage et il nous dit « Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui cherchera à la sauver la perdra. » Ça, c'est l'église de Smyrne. Alors allons-nous reculer devant la souffrance ? Allons-nous reculer devant la souffrance du témoignage ? Vous savez, on peut bénir le Seigneur tous les jours, hein, de ce que nous vivons dans une démocratie et que nous avons la liberté de nous réunir, que nous avons la liberté de mettre des prospectus, que nous avons la liberté de chanter dans la rue, que nous avons la liberté de dire « Je suis chrétien !» je suis chrétien, je crois en l'évangile, je crois en Jésus-Christ. Vous savez, il y aurait eu certainement de nos ancêtres qui diraient aujourd'hui, mais quelle grâce et quelle chance ils ont, nos descendants. Mais le prix a été payé aussi. Hein. Combien de sang pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui et dire ce que nous disons. Est-ce que nous allons reculer ? Bénissons le Seigneur. Avec toute l'histoire des siècles, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que Dieu nous donne et nous renouvelle, certes dans un monde matérialiste, mais à travers tout ce que nous bénéficions, mais nous devrions, le dimanche matin, mais pouvoir les uns et les autres nous lever et de dire, mais Seigneur, je te bénis et je te loue pour toutes tes merveilles. Parce que c'est ça, frères et sœurs. Faut-il que nous soyons privés de notre liberté ou que nous soyons séparés les uns des autres pour après bénir le Seigneur dans le fond d'un cachot ? C'est dommage, on peut le faire ensemble. Celui qui vaincra. Le grand défi de la souffrance, la dissuasion de la persécution, la crainte des hommes. Alors la promesse est donnée aux chrétiens de Smyrne, il ne souffrira pas la seconde mort. Nous savons que nous avons quelque chose de formidable qui nous attend de l'autre côté. Vivons-nous, le peuple de Dieu vit-il avec cette espérance du ciel aujourd'hui ? On est tellement terre à terre. On s'intéresse tellement aux choses de la terre, de nos préoccupations, de ceci, de cela. Mais est-ce que nous pensons qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire qui nous atteint ? On comprend que quelquefois Dieu réveille son Église à travers quelques secousses. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Parce que dans la quiétude, hein, on s'endort très facilement. Moi, si vous me dérangez pas, je m'endors. Hein. Voilà, ça va. Il recevra en échange de sa vie terrestre et d'humiliation la vie éternelle, où les larmes et les cris auront disparu. Quelle belle et grande consolation, nous savons. Troisième proposition dans notre texte, l'église de Pergame. L'église de Pergame, Dieu s'adresse aux chrétiens de cette ville. Elle dit, « Je sais où tu habites, je sais que là est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. » À vrai dire, cette église était exposée à de grands combats par le fait même de son implantation dans une région des plus occultes qui soit, en Orient. On pourrait rentrer dans les détails, mais le temps nous manque. Mais cette région de Pergame était véritablement infestée d'occultisme et de magie. Bon, il y a des villes qui sont un petit peu plus particulière que d'autres, ça c'est sûr, mais là il y avait quand même quelque chose, parce que Dieu dit, mais je sais que c'est là où se trouve le trône de Satan, c'est là où Satan demeure, et il y avait quand même une église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, hein. Même là où il y a de l'occultisme, où il y a quelquefois des philosophies humanistes qui sont antichrétiennes, c'est pas pour ça que Dieu ne veut pas faire son œuvre. À Éphèse, c'était une ville d'occultisme, Pergame aussi. Moi, je bénis où les frères sont envoyés quelquefois pour prêcher l'évangile dans des hauts lieux qui sont réputés pour être très très malsains et antichrétiens. Dieu a son église. Haut lieu d'idolâtrie. Et cette ville était symbolisée par un serpent. Oui, on le retrouve souvent, hein, par un serpent. Analogie à faire avec l'église d'aujourd'hui plongée dans un monde de plus en plus ténébreux et idolâtre. Hein. À travers toutes les pollutions occultes que nous connaissons, auxquelles nous sommes confrontés, avec toutes les intoxications spirituelles, toute l'asphyxie morale de notre monde, dont le grand instigateur s'appelle Satan. Il le fait, et il le fait d'une manière insidieuse pour... Il a déjà les hommes du monde sous sa coupe, mais s'il peut quelquefois séduire les chrétiens, eh bien, il ne va pas s'en priver. On l'appelle le prince de ce monde. Dieu est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est souverain sur tout l'univers. Mais il y a quand même celui-ci. Et il a des hauts lieux, il a des temples, il a ses chapelles, il a ses prêtres, il a son sacerdoce, il a tous ses instruments qui sont en place, tant sur le plan religieux que sur le plan foncièrement occulte, ou alors même dans le monde politique. Hein. Il est là. Et la victoire consiste pour tous les croyants à discerner ce qui est pur de ce qui est souillé. Ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu, et dans une séparation d'avec l'environnement derrière lequel se cache, sous des aspects très souvent lumineux, et séduisant la puissance des ténèbres. Dans 2 Corinthiens 6 et 7, il est dit ceci, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et avec cette injonction pour le peuple de Dieu, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Automatiquement, il y a un phénomène d'exclusion. Si je me sépare de ce qui est impur, c'est Dieu qui m'accueille à ce moment-là. Mais je ne peux pas aller vers Dieu tout en étant et en gardant ces choses. Ce n'est pas possible. Et l'apôtre Paul de surenchérir dans Éphésiens chapitre 6, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, vous le savez. » Maintenant, nous passons à Thyatire. Thyatire, c'est un autre exemple de victoire où la victoire s'impose. Ça commence par une louange. Apocalypse chapitre 2, verset 19, Dieu dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est un petit peu à l'inverse. Enfin, le même tableau qui nous est donné comme à Éphèse, mais Éphèse s'était lassé. Que là, eh bien, il en faisait encore davantage, toujours de plus en plus, pour la gloire de Dieu, en quelque sorte. C'est une église, nous pourrions dire, prospère et florissante, mais il y a un blâme, et un blâme de taille, un reproche de taille. Parce que, pour nous montrer encore que ce n'est pas l'activisme, que ce n'est pas la multiplication de tout ce que nous pouvons faire sous le couvert de glorifier le Seigneur, et de dire, eh bien voilà, nous avons une église qui fonctionne, nous avons ceci, nous avons cela, une église qui est ouverte 24 heures sur 24, c'est pas ça. Parce qu'on peut faire tout ça en perdant l'esprit. La preuve. Un blâme, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, dit l'Esprit du Seigneur à cette église de Thyatire, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et là, nous comprenons de quoi il s'agit. Il y avait des œuvres, il y avait un amour sincère, il y avait la foi, il y avait un fidèle service, il y avait une constance dans les dernières œuvres qui était encore plus forte que dans les premières. Mais néanmoins, quand on fait la comparaison de ces deux textes dans ce paragraphe concernant Thyatire, nous nous apercevons que Dieu n'est pas content. Que le Seigneur n'est pas content parce qu'il y a là, au milieu, peut-être une ou plusieurs personnes qui, eh bien, se déclamant ou se déclarant inspirées de l'Esprit. Prophétesse, femme Jézabel, et ça nous renvoie un petit peu à Madame, comment elle s'appelait le... Jézabel, son mari s'appelait comment? Voilà, c'est ça, Akab. C'était la femme d'Akab, hein, le roi Akab, qui se dit, donc prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et mes serviteurs, c'est pas seulement l'ange qui est proposé, donc vous avez compris, celui qui était responsable de l'Église, mais l'Église. Et elle séduit et enseigne des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ce reproche de Dieu a pour objet une certaine complaisance et une inclination aux faux enseignements et aux doctrines pernicieuses. C'est ça le problème qui est stigmatisé par Dieu. On peut faire beaucoup de choses. On peut remuer la poussière, ciel et terre. On peut faire tout ce que vous voulez en évangélisation ou en activité. Mais s'il y a une fausse doctrine, s'il y a des choses pernicieuses qui s'infiltrent, alors à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Nous ne sommes plus l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes tout simplement à mettre au rang d'une secte. Parce que c'est comme ça qu'on caractérise faux enseignements, déviation de la parole, tordre le sens des Écritures. Une secte. Nous sommes dans un siècle et nous avons besoin d'y veiller. Et je crois que l'intellectualisme et tout ce qui a été donné et qui est voulu par Dieu est une bonne chose. Enfin, je veux dire la réflexion, l'affranchissement de la pensée des hommes. Après des siècles d'obscurantisme sous un couvert et un écrasement religieux. Et maintenant, ça va dans l'autre sens. Et nous nous apercevons que nous sommes dans une société où nombreuses sont les déviations doctrinales qui engendrent une foule de sectes, et des sectes chrétiennes, et des sectes évangéliques, j'ose le dire, où il n'y a plus rien à voir avec les enseignements de Jésus, qui est un enseignement de grâce, de libération, de foi, d'affranchissement, un souffle nouveau dont nous parlions tout à l'heure. Mais Paul l'avait entrevu puisqu'il l'écrit. Quand il dit ceci, il viendra un temps. Et je crois que nous sommes vraiment dans ce temps-là. Il y a eu des temps aussi avant. Parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, je peux vous dire que même déjà dans les premiers siècles, c'était déjà la controverse était très forte. Hein, au milieu du christianisme, avec tous ces hommes qui se battaient ensemble autour des déclarations des apôtres, etc. Hein, ça a été quelque chose... C'est pour ça qu'on a fait des conciles. Enfin, une certaine église a fait des conciles. Enfin, normalement, c'était l'Église chrétienne qui avait fait ça. Et puis après, bon, elle a pris un autre nom. Mais toujours est-il que il nous est dit, il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est pour ça que quelquefois, nous avons du mal à faire de l'évangélisation, parce que les gens, ça les dérange, hein, l'évangile. Eh oui, ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. C'est ce que c'est les démangeaisons? Hein? Mais c'est pas très agréable. Ayant la démangeaison d'entendre la curiosité, un certain goût comme des friandises, en quelque sorte, hein, d'entendre des choses agréables, hein, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alors on voit les gens courir un peu de tous les côtés en disant « Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a révélé la vérité. » Mais la vérité, c'est Jésus tout simplement. On n'a pas besoin d'aller ici ou ailleurs. La vérité, eh bien, nous l'avons et c'est l'Esprit qui nous confirme. Il nous conduira dans toute la vérité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut bien le reconnaître, que de déplacements. Où on court d'un endroit ou un autre parce qu'on se dit « Voilà, j'ai trouvé quelque chose de formidable. » Ce que j'attendais depuis des années, maintenant, je l'ai compris. Mais alors, à ce moment-là, si on n'enseigne plus toute la doctrine, on restreint finalement, eh bien, peut-être que sur une fraction de la parole. Alors, on fait une secte aussi. Il y a des gens qui ont le dada de prêcher certaines choses, uniquement certaines choses. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien du tout. Et ça, c'est dangereux. La nouveauté, le changement, l'innovation. Alors, à cette église de Thyatire, il est dit « Celui qui vaincra ». Et moi j'ajoute, celui qui vaincra les esprits d'erreur et de séduction, eh bien celui qui vaincra, qui restera enraciné sur la parole, je donnerai autorité sur les nations. C'est formidable, vous savez que nous allons régner. Pour l'instant, nous sommes dans l'Église souffrante et militante et combattante. Mais parce que nous garderons la parole du Seigneur et que nous allons garder notre foi en Jésus-Christ, avec la grâce qu'il va nous donner, je dis bien avec la grâce. Alors à ce moment-là, nous régnerons sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations et l'étoile brillante du matin. Image de l'aurore et de la lumière. Restons dans la lumière, chers amis. Ne nous laissons pas séduire par ce qui brille. Parce qu'il y en a des choses qui brillent. Cinquième proposition. Il s'agit de l'église de Sardes. Elle avait pour caractéristique cette église... l'abondance matérielle, la richesse et le luxe. Ce qui n'est pas de tous les cas de toutes les églises. Hein? Mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. Mais il y a dans le monde des églises qui sont de véritables cathédrales. Des églises où il y a beaucoup d'argent, on parle de... Comment on dit? Dollars? Ah oui. Hein? Où tout marche avec... où toute la prédication tourne autour de l'argent. C'est vrai. Alors l'église de Sardes se caractérisait par cette interpellation de Dieu « Je connais tes œuvres, certainement. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. » Alors ça, c'est terrible. Quelqu'un qui passe pour être et qui n'est pas. Tente dans son vocabulaire qui emploie des mots qui ressemblent, mais qui finalement sont vides de sens, ou alors à travers un comportement qui donne l'impression, quitte à attirer même à gagner la confiance des autres, mais où il n'y a rien du tout derrière. L'église de Sardes, je l'ai dit et je le répète, hein, il y avait un roi. C'est vrai, hein, c'est l'histoire. Hein. Il s'appelait Crésus. Ça vous dit rien? Le roi Crésus. Et il y avait un fleuve qui passait à Sardes. Vous savez comment il s'appelait? Le fleuve, le Pactole. Et c'est vrai? Non, non, mais vous pouvez vérifier, hein, j'ai regardé, j'ai contrôlé. Ah bah non, ce que je vous dis quand même, je regarde. Ouais. Alors, on comprend que c'est resté dans la mémoire. Quand on dit l'expression « Riscum Crésus », c'était ça. C'était un roi de l'Antiquité qui habitait, était roi de Sardes. Et il avait tout pour lui, il était roi, et puis il avait un beau fleuve qui s'appelait le Pactole. Je vous autorise pas pour autant à jouer au loto. Hein. C'est un petit clin d'œil que je fais. Hein. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Quelle ressemblance parfois avec un certain christianisme. Les apparences, mais le vide intérieur. Tu passes pour être. Et ça, je ne me restreins pas seulement à ce que nous voyons autour de nous de grossier, mais quelquefois dans certaines choses qui nous rapprochent. Dans le monde dans lequel on peut parler, monde protestant, monde évangélique, monde de Pentecôte, il n'y a rien de pire que l'assoupissement spirituel qui conduit à une fausse sécurité charnelle. Plus de lutte, plus de persécution bercée dans un confort matériel, l'insouciance et le conformisme. Et on n'a plus qu'à prendre son oreiller, s'endormir, et d'attendre le retour de Jésus. Mais vous connaissez la parabole des vierges ? Quoi ? Puis les vierges ? Vous êtes timide, hein ? Vous voulez pas le dire. Et là, nous voyons qu'il y a un grand besoin de réveil. Un grand besoin de réveil, comme Jésus le laisse supposer dans Luc, chapitre 21 au verset 24, quand il dit ceci, « Prenez garde à vous-même » et il s'adresse à ses disciples, « De garde que, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du boire et du manger, et les soucis de la vie, et la séduction des richesses. » Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes dans un temps où il y a de grands dangers pour l'Église aujourd'hui ? Il faut faire ce qu'il faut, c'est vrai. Mais attention. Vous savez, quand on voyage un petit peu à l'étranger et qu'on voit un petit peu ce qui se passe, moi, il m'est arrivé d'aller faire un voyage aux États-Unis. J'ai été quand même passablement surpris. Je me dis, qu'est-ce que nos églises sont pauvres ? Enfin, je vous dis ça, c'est vrai. Oh là là ! C'est bizarre, hein ? Ça fait bizarre. Mais bon, moi, je crois que le Seigneur a ses enfants partout. Même dans ce contexte-là. Ouais. Peut-être que certains sont plus exposés que d'autres. Alors il est dit à celui qui vaincra, les pièges du monde matérialiste et qui en usera sans y attacher son cœur. Parce qu'attention, il ne faut pas tomber aussi dans le cas contraire où on se dit, voilà, le monde il est comme ça, et puis moi je ferme mes yeux, je me mets entre quatre murs, je ferme les portes et les fenêtres, et je vis ma foi. Seigneur, non, c'est pas ça. Jésus a dit, vous allez dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Et je crois que nous avons à vivre une vie pleine et entière, dans la liberté de Christ, avec la grâce du Seigneur, avec la sagesse que l'Esprit nous donne, et de pouvoir être le sel de la terre et la lumière du monde, parce que c'est pour ça que nous sommes. Alors, de pouvoir en user dans ce qui est bien, mais sans en abuser. Parce que le problème, il est toujours là, c'est une question d'équilibre, tout simplement. Sans y attacher notre cœur. Et c'est pourquoi j'aime bien cette promesse de l'Ancien Testament quand il est dit dans un psaume que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde. Parce que dans la bénédiction, il peut y avoir la chute aussi. Hein. Non pas que la bénédiction soit vecteur d'un principe de chute, mais c'est parce que moi, je peux chuter en oubliant Dieu. Ne me donne ni richesse, ne me donne ni pauvreté, mais donne-moi tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Et puis, connaissez le texte, hein. L'église de Philadelphie, maintenant. La particularité de cette communauté chrétienne, c'est la deuxième où il n'y a pas de reproche, Smyrne et Philadelphie. C'est la faiblesse, mais aussi sa fidélité. Elle est faible parce qu'elle est fidèle, ou elle est fidèle parce qu'elle est, je ne sais pas, hein, elle est sans reproche. Le verset 10 et 11 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Attention, on n'a rien vu encore, frères et sœurs. Ça vient. « Je viens bientôt, » nous dit le Seigneur. « Retiens ce que tu as. » À la fidélité répond la fidélité. C'est logique, c'est normal. Promesse de protection et d'espérance, je viens bientôt. Que la tentation est grande d'oublier cette vérité fondamentale du retour de Jésus-Christ dans notre monde. Déjà 2000 ans d'attente, les Juifs avaient déjà oublié leur Messie. Est-ce que les chrétiens vont oublier leur Sauveur ? La question est là. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Est-ce que nous l'attendons toujours avec la même ferveur ? Nous chantons nombre de cantiques où il est question du retour de Jésus. C'est vrai, nous le chantons, mais considérons-nous son retour avec tout ce qu'il comporte de préparation, de séparation, de sanctification, de service redoublé pour les perdus, ce qui a fait dire à Jésus dans une parabole, « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Alors, à l'église de Philadelphie, il nous est dit cette promesse à celui qui vaincra, patiemment, sans renoncer ni douter de cette glorieuse espérance. Et la promesse qui est donnée à ces chrétiens, il est dit, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Une colonne, ça bouge pas. La colonne, c'est un soutien. La colonne dans le temple de mon Dieu, symbole de la fermeté à toute épreuve, envers et contre tout, et surtout dans les temps de la fin, où le vent, où les vents vont souffler des quatre points cardinaux. Et je termine avec l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche. Vous avez remarqué, il est souvent question de prétention de richesse, hein, très souvent, hein. Je constate. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Ne sais-tu pas que tu es pauvre? Tu es même aveugle. Et moi, je te dirai même, tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Gardons-nous, frères et sœurs, de tomber dans un état de suffisance qui nous fait croire que nous sommes arrivés et que nous n'avons plus besoin de rien sur le plan spirituel. Alors, besoin de matériel, ça, on en a toujours besoin. On a toujours des meubles à acheter, on a toujours, c'est vrai, une nouvelle voiture et puis tout ce qu'on voulait. Ça, de ce côté-là, c'est intarissable. C'est ce que dit Jésus à la Samaritaine qui vient au puits. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver que quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, nous en arrivions à dire, vous savez, hein, notre église, elle est mieux que les autres. Puis notre pasteur, il est pas mal quand même. Et puis, nous avons des cantiques, nous avons une chorale magnifique. Nous allons bientôt faire de l'international avec notre chorale. Passer dans les plus grands. Eh oui. Et puis, vous savez, on est vraiment bien, on s'est enrichi. Ben, vous savez, moi, quand on commence à réfléchir comme ça, c'est qu'on est, on n'est pas loin de chuter. Vous savez, c'est un petit peu ce que les grandes églises chrétiennes nous ont montré autour de nous. Commencer à avoir des beaux temples, avec de beaux orateurs, enfin de grands orateurs, des hommes qui savent manier la rhétorique, qui vous font des discours extraordinaires, où les gens sont là, « Oh, qu'est-ce qu'il parle bien !» Et puis, se pâmer de toutes sortes de choses, là, c'est dangereux. Là, ça devient terrible. C'est un état très grave de présomption, d'orgueil qui aveugle notre vision intérieure. La victoire consiste à ne pas regarder à nous-mêmes, mais d'avoir simplement les yeux fixés sur Jésus. Tout simplement. Les yeux fixés sur Jésus. Voici, je me tiens à la porte dans ce texte adressé à Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte. Avec le Seigneur, je voudrais le dire de tout mon cœur ce matin, il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Jamais. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Toutefois, nous avons à prendre garde de ne plus entendre sa voix et de lui fermer la porte. En disant, Seigneur, non, toi tu restes dehors, ça suffit. Car nous ne manquerons pas, si nous faisions ainsi, de sombrer dans l'orgueil, l'aveuglement et le dessèchement sans nous en rendre compte. C'est pourquoi l'Esprit dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, aveugle, tu es nu. Tu dis que tu es riche, mais moi je vois finalement ce que toi tu n'es plus capable de voir. Toi tu vois l'extérieur, tu vois des beaux monuments, tu vois des belles fresques et puis de belles fioritures à ta foi. Et moi je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. L'église de Laodicée, c'était ça, ce qui est terrible. Le dessèchement. L'illusion à celui qui vaincra et qui saura rester dépendant de Dieu en toute chose. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous vous rendez compte qu'on va partager le trône avec Jésus? Il va y avoir de la place, hein. C'est un grand trône, hein. Ben oui. Si logiquement on réfléchit comme ça, il y a de la place. C'est sur mon trône. C'est pas à côté de mon trône. C'est pas à mes pieds. C'est sur mon trône. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on était, fils de roi. Si demain on me dit tu vas être président de la République, moi je vais me réjouir. Je vais pas y aller, n'ayez pas peur, je reste avec vous. Ou alors je fais descendre de gouvernement à Saint-Nazaire. Je me déplace pas. Non, mais c'est pour dire que. Mais ça ne vous émeut pas de dire que vous êtes roi, prince et tout ça? Que nous allons nous asseoir avec Jésus sur son trône? Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est le prix de la vocation céleste. Je termine par un rappel de tout ce que nous avons vu, mais très rapidement. Victoire sur le vieillissement, frères et sœurs, c'est l'église d'Éphèse. Victoire sur la souffrance, c'est l'église de Smyrne. Victoire sur les puissances occultes, c'est Pergame. Victoire sur les fausses doctrines, c'est Thyatire. Victoire sur l'assoupissement spirituel, c'est Sardes. Victoire dans l'espérance du retour de Jésus-Christ, c'est Philadelphie. Et victoire pour rester dépendant de Dieu seul, de sa parole, c'est Laodicée. Alors, l'éloge que Dieu donne à Jacob. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Ou avec Paul, cette parole qui fait chaud au cœur quand on la lit. Parce qu'elle nous montre qu'il y aura pour chacun d'entre nous un terme où nous rejoindrons le Seigneur, mais Paul a pu dire ces mots. Le moment de mon départ approche. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parce que garder la foi, c'est être un vainqueur, c'est être un vrai vainqueur avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Seigneur, tu nous as rappelé tellement de choses simples ce matin. Tu as bien voulu nous montrer, Seigneur, que nous ne sommes que des hommes et combien nous nous sentons fragiles. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, j'y arriverai. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, avec la force de mon poignet ou avec ma volonté, je parviendrai. La seule chose que j'ai à faire, c'est de dire, Seigneur, toi, tu as remporté la victoire. Et moi, je me réfugie dans cette victoire. Je me blottis, Seigneur, dans ton triomphe, Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui peux faire ces choses. Mais c'est parce que justement je me sens faible. C'est parce que je me sens tellement démuni, Seigneur, que je m'appuie sur toi. Oui, Seigneur, nous vivons dans un monde qui est, il est ce qu'il est, tout simplement. Et tu as voulu que nous soyons probablement les témoins de ces derniers jours, de ces dernières heures de l'humanité. Alors, tu veux véritablement, Seigneur, que nous enseigner tout cela. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné un recul extraordinaire à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Mais tu nous donnes un recul formidable parce que nous pouvons lire aussi la révélation du Nouveau Testament avec ces lettres écrites, adressées, Seigneur, aux églises, avec leurs caractéristiques, avec leurs défauts, avec leurs qualités, et pour nous montrer, Seigneur, que si nous avons à lutter, eh bien, nous avons à lutter souvent contre ceci ou cela, quelquefois contre tout à la fois, mais parce que nous luttons, parce que nous résistons, eh bien, tu es en train de préparer, Seigneur, la victoire et le triomphe de ton nom, Seigneur, à travers de simples hommes et de simples femmes qui tout simplement ont pour désir au fond de leur cœur de te rester fidèle. Merci, Seigneur, tu bénis ton peuple. Tu bénis mes frères et mes sœurs ce matin. Tu leur donnes de passer et de repasser ta parole sur leur cœur. Et aide-nous, viens nous en aide, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, nous t'implorons. Et donne-nous de tenir jusqu'au bout et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.